Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro la radio.
Avec vous, Sophie Méné, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Alors, je vais vous poser la question, parce que c'est vrai qu'on a bien vu que l'événement était très franco-français. C'est vrai qu'on va toujours regarder un petit peu aussi ailleurs ce qui se passe. Peut-être d'abord, GA Smart Building, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je disais en introduction, un pionnier de l'industrie hors site avec 5 usines en France, c'est ça ?
8 usines en France.
8 maintenant, mes chiffres sont déjà archaïques et anciens. Vous avez aussi franchi une étape en acquérant Haute-Savoie, hein, c'est ça ?
Exactement. En 2017, le groupe a acquis Haute-Savoie. En fait, c'est en deux mots, GA, c'est effectivement un acteur qui est assez atypique dans le monde de l'immobilier et du bâtiment, parce qu'on s'engage finalement sur toute la chaîne de valeur, à la fois en promotion, en construction, dans le monde industriel et en tant que gestionnaire de nos immeubles. Et j'insisterai peut-être un peu plus sur le côté industriel, le coup, qui nous différencie beaucoup, puisque ce côté-là fait qu'on va aller associer des matériaux. On n'est pas promoteur d'un matériau, mais on est promoteur de solutions constructives. Et donc, on va chercher le bon matériau en fonction de sa pertinence technique. Donc, effectivement, avec Haute-Savoie, quand on a besoin d'utiliser le matériau bois, ou avec nos usines qui s'appellent Préga, quand on a besoin d'aller sur des sujets de béton bas carbone, parce qu'on ne parle plus de béton, mais il y a quand même un gros déploiement aujourd'hui sur le fait de trouver de nouveaux bétons et de
les parce que le béton, j'allais dire, est quand même a quand même largement sa place et il est bien utile dans beaucoup de circonstances, c'est bien ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit se structurer du bois, du béton, enfin voilà, qu'il y a des mélanges
et... qui sont très intéressants. Et puis j'irai aussi sur tout l'aspect solution technique, technologique, parce qu'on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus smart, on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus intelligents. Et ça, c'est pareil, nous, on développe avec toutes les équipes de R&D et nos usines des produits de CVC, de luminaires, de gestion technique des bâtiments, etc. Donc le groupe au global, c'est effectivement 800 collaborateurs, 8 usines réparties globalement sur toute la France.
Sur toute la France. Et donc, on va parler de hors-site, peut-être réexpliquer aussi, peut-être pour ceux qui nous découvrent ou qui nous suivent, ce que c'est que le hors-site, parce que le mot, on le voit bien, mais essayer de comprendre à travers des usines, finalement, qu'on fabrique pas sur place, j'allais dire, voilà, on fabrique aussi en une partie en usine, hein, c'est ça, et le lien finalement avec le sujet du bas carbone.
Ben, en fait, le hors-site, c'est vraiment la notion de préparer, concevoir. Ensuite, de produire en usine et de préfabriquer. Et ensuite, d'assembler sur chantier et de construire. On utilise un peu des termes différents aujourd'hui. Donc, quand on parle de préparer des projets, c'est, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais c'est de rentrer dans de la conception de façon beaucoup plus poussée. Le hors-site nous amène à travailler ce qu'on appelle en full BIM. Donc, on crée des vrais avatars numériques de nos
bâtiments. Des maquettes numériques,
oui. Parce que et ça va très, très loin dans la maquette numérique, puisque chaque composante de l'acte de construire va être intégrée dans cette maquette. Et on ne la change plus en chantier. L'ouvrage qui est livré sera assemblé en chantier. Ensuite, on produit tous ces éléments, que ce soit les éléments de structure, de façade, de technique, comme je le disais, dans nos usines. Et ensuite, on vient les assembler sur chantier. Et ensuite, l'assemblage, vous pouvez entendre parler de deux types d'assemblage. On parle de 2D aujourd'hui, de la construction en 2D, donc en deux dimensions. C'est tout ce qui va être les planchers et les façades, les murs de refend, les poteaux, les poutres, etc. Et donc, quand on fait de la 2D, ces éléments sont construits en usine, assemblés sur site. Et quand on fait de la 3D, c'est ces éléments 2D qu'on garde en usine, on assemble et dans lequel, à l'intérieur, en usine, on vient faire l'intégralité des finitions, donc l'ensemble des corps d'état techniques et architecturaux. Et ces modules 3D, quand ils viennent sur chantier, ils sont soit assemblés de façon structurelle, et donc ça devient la structure du bâtiment, sans autre structure complémentaire, soit ils peuvent être utilisés, par exemple, pour des salles de bain préfabriquées ou autres, et là, ils viennent dans une structure de bâtiment existant pour de la rénovation, par exemple.
Voilà, et alors on le comprend, on réduit aussi les nuisances sur les chantiers. Il y a aussi dans la construction, dans l'élaboration, par exemple, du numérique aussi, de réduire autant que possible l'impact.
Exactement.
C'est là où il y a le lien avec les enjeux de bas carbone.
En fait, moi, ce qui m'a choqué, enfin, ça fait 6 mois que je travaille dans le hors-site, et que je découvre le monde de l'industrie aussi. Mais le hors-site aujourd'hui, le hors-site chez GA, c'est un hors-site qui est français. Ça, il faut le dire, parce que globalement, le monde entier se structure autour du hors-site, mais il n'y a pas tant de pays qui se sont structurés pour réussir à le faire chez eux.
Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, justement, parce qu'on parle de l'herbe est-elle plus verte ailleurs. Alors, en tout cas, il y a des chiffres qui disent que c'est un marché en pleine croissance. Hein. Il y a McKinsey qui dit d'ici 2030, 20% des bâtiments construits dans le monde le seront hors site. On voit que, alors, aux États-Unis, hein, il y a des perspectives de marché, en particulier de la construction modulaire, même si c'est une partie du hors site qui ne cesse de progresser, hein, pour atteindre 130 milliards de dollars aux États-Unis en particulier. On a quelques exemples dans les pays plutôt du Nord, hein, c'est ça, en Europe, ou peut-être couler du béton, c'est pas si simple ça pour eux. Est-ce qu'en France, enfin en France, vous êtes un pionnier, mais on est encore un peu dans le début, quoi, dans le tout début.
Pour l'instant, en France, il y a en fait clairement, nous on lance, enfin on se structure pour être en capacité de produire les vrais premiers immeubles hors site. Il y a quelques expériences qui ont été faites, mais à des échelles plutôt démonstratives. L'ambition, c'est de le faire à plus grande échelle et surtout que ce soit reproductible. Parce que, comme vous le disiez, dans un premier temps, le hors-site, il consomme à peu près 50% de matières premières en moins. Mmh. Donc, quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est 50% de la matière première en Europe, la première chose à faire avant de chercher le bon matériau, c'est de commencer à consommer moins. Et une fois qu'on a consommé moins, c'est de savoir comment on va mettre le bon matériau au bon endroit en fonction de ce qu'on doit y construire. Donc c'est tout
c'est ce travail-là. C'est la France, finalement, qui a un savoir-faire aussi en la matière. Peut-être si on veut se distinguer, peut-être, c'est ce que...
La France, elle a surtout un savoir-faire en construction traditionnelle, pour l'instant.
D'accord.
Et donc, on voit bien que les grands groupes français travaillent dans le monde entier en hors-site, mais pas en France.
D'accord.
Et il y a un vrai enjeu, en fait, de réindustrialisation du territoire, de façon à répondre aux ambitions environnementales de demain. On parlait de la RE 2020. Moi, j'ai souvent tendance à dire, alors, toutes les réglementations thermiques que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, on avait des ingénieurs qui se demandaient comment on allait continuer à faire comme avant. Et puis, on trouvait toujours l'astuce pour continuer à faire comme avant. Oui. La RE 2020, en fait, elle met un frein, top à tout ça. C'est on arrête de faire comme avant. OK, on a le niveau 2020 qui vous permet encore de serrer un peu les fesses et d'avancer. Mais quand on commence à être sur les niveaux 2025, 2028, 2030, il faut changer les méthodologies constructives. Et donc, pour ça, il faut réfléchir à comment on se structure aujourd'hui en France pour répondre à ces besoins qui seront des besoins qui vont arriver vite, hein, dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est fini. Et j'ai effectivement, moi aussi, un peu toujours le tendance à dire, c'est maintenant, en fait, parce qu'on a entendu parler de la préfabrication longtemps, on a entendu parler du hors-site longtemps également. Mais on est aujourd'hui arrivé à des coûts travaux qui explosent, de la matière première également. Et finalement, le fait de mettre aujourd'hui des personnes dans des usines avec des conditions de travail et de sécurité optimales permet d'arriver à des coûts travaux qui sont assez similaires à des projets sur site et qui permettent d'avoir des résultats environnementaux bien supérieurs.
Et alors vous...
Et des délais respectés.
Oui, alors les délais, effectivement. Alors les délais, c'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais en moyenne, en 2D, on réduit au moins de 50% les délais. Sur de la 3D, on peut aller jusqu'à 60-70% de réduction de délais, puisqu'on est sur... Et surtout, beaucoup moins de nuisances. Donc il y a un enjeu... Moi, je dis souvent qu'il y a un enjeu social. Hein, on se demande aujourd'hui comment construire plus. Parce que parler de rénovation, c'est très bien. Mais rénover des bâtiments, ça ne donne pas de logements à ceux qui n'en ont pas.
Bien sûr.
Et donc aujourd'hui, il faut donner des logements à ceux qui n'en ont pas si on veut freiner l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers. Et donc pour ça, il faut être en capacité de construire vite. Donc il faut qu'on ait des élus qui soient mobilisés, qui soient motivés pour le faire. Donc il faut qu'on limite les nuisances sur les territoires, parce que construire en 30 mois, c'est plus acceptable pour un élu. Avoir des villes qui sont sales à cause des chantiers, c'est plus acceptable. Et je pense qu'à ce titre-là, ça plaide aussi pour pousser les méthodologies hors-site.
Et alors, il y a une idée parfois aussi préconçue. J'allais dire, quand on parle de préfabriqué, on dit on va nous fournir le même bâtiment sous le même format. Ça n'empêche pas l'inventivité quand même, le hors-site.
Pas du tout.
Et d'ailleurs, vous voulez devenir, vous l'avez dit, leader de l'immobilier résidentiel. J'imagine aussi, c'est pour faire aussi proposer des jolis
logements.
Produits
et des jolis logements. En fait, moi, j'ai souvent tendance à dire le hors-site, c'est pas une écriture architecturale. Le fait de construire hors-site, c'est le fait de préfabriquer des éléments qui vont être assemblés et qui vont nous permettre. C'est une méthodologie de construction. Donc après, c'est l'intelligence des architectes. Nous, on travaille effectivement en BIM. Alors, j'utilise souvent mon histoire de boîte d'Alego, mais c'est aujourd'hui, finalement, le BIM, c'est la nouvelle boîte Alego des architectes qui possède l'ensemble des composants qui vont leur permettre de réaliser leur immeuble. Et c'est à eux d'être astucieux. Et quand ils ont besoin d'un nouveau composant, on le construit. Ce qui est important, c'est que ce composant-là, il ne soit pas perdu et qu'il soit remis dans la nouvelle boîte Alego pour le prochain. Donc, c'est comment on va avoir une donnée BIM qui va permettre de faire du tertiaire, ce qu'on sait déjà faire, de l'industriel, ce qu'on sait déjà faire, du logement, de la résidence étudiante, de la résidence senior. On parle du réemploi, on parle de l'upcyclage aujourd'hui. C'est aussi hyper important de ne pas produire les déchets de demain. Et donc, il y a un gros travail aussi à faire là-dessus et que moi, je pousse en interne, qui est de dire les immeubles qu'on produit, c'est aussi des immeubles qui, demain, seront des ressources de matières premières parce qu'ils seront aussi réutilisables, démontables éventuellement. Et ça ne sera pas les déchets qu'on a aujourd'hui où, finalement, on arrive à réutiliser très peu de déconstruction.
Donc, si je vous écoute bien, il y a aussi quand même encore, on va dire, des états d'esprit à faire changer et à faire évoluer sur ces sujets-là.
Oui, il y a un état d'esprit à faire changer parce que je réutilise le mot traditionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la tradition de l'acte de construire en France, surtout dans le logement. On veut son logement avec le béton, la pierre, parce qu'on est habitué à ça, alors que les autres pays n'ont pas cette culture. Donc, à nous, promoteurs, d'être malins et de proposer des nouveaux produits. Et je pense que le hors-site va nous permettre de proposer des nouveaux produits. Moi, je dis souvent, nos concurrents, enfin, je considère que mes concurrents, ce n'est pas les promoteurs dans le neuf, c'est l'ancien. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est pas la standardisation qu'on leur propose dans le neuf, mais c'est plutôt l'originalité et ce qu'on a la possibilité de faire dans l'ancien. Et c'est peut-être sur ce créneau-là qu'il faut aller, y compris sur le hors-site.
Merci à vous, Sophie Ménet, donc directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building.
Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.